Bonjour et bienvenue. On ne pouvait pas imaginer une série consacrée aux archives du rire sans retrouver Raymond Devos. J'ai le bonheur de le rencontrer à deux reprises, une fois en 1993 à Genève, en mars, juste après l'un de ses spectacles, la deuxième fois en 1996. Ce sont les extraits d'une première interview que je vous propose ici. Là, Raymond Devos se dévoilait entièrement. Il parlait de ses inspirations, Pierre Dac, Grock, il parlait de tout ce qui l'animait, de tout ce qui l'inspirait dans ses sketchs. Et pour bien introduire les premières phrases de Raymond Devos, je vous propose de lire quelques lignes d'un livre de Guy Silva, « Quoi que dit Raymond Devos ». Raymond Devos qui se raconte également formidablement dans ce livre. Il parle de son enfance dans une famille où il y avait 7 enfants. « Mon père adorait le cirque. Il y invitait toute sa petite famille quand un cirque s'installait près de chez nous. À l'époque, nous habitions Tourcoing. Pour mon père, le cirque, c'était quelque chose qu'il fallait voir. » J'ai connu mes premières impressions de spectacle sous un chapiteau. C'était réellement la fête. Raymond Devos parle souvent de cirque, notamment des affiches qu'il voyait devant chez lui et qui annonçaient l'arrivée du chapiteau. Raymond Devos, dans les Archives du Rire, en 1993.
Je me suis surpris à voir l'attitude du clown qui était sur l'affiche de mon enfance. Ça, ça a été quelque chose pour moi, une espèce d'émotion formidable que j'ai éprouvée sur le moment, mais enfin dont je me suis souvenu après. J'ai trouvé ça formidable. C'est presque un signe. Moi, je crois aux signes. Je crois que quand j'étais gosse, j'avais comme ça des espèces de petites lumières qui s'allumaient. C'était quelque chose devenait fascinante. Alors qu'elle était, qu'elle, a priori, il y en a qui passaient à côté sans faire attention. Et moi, tout d'un coup, tout ça sont des signes. Et c'est grâce à ces signes qu'on sait à un moment ce qu'on doit faire dans la vie. C'est pourquoi on est fait. C'est ça la vocation. Il y a 3-4 signes forts, puissants, comme ça, qui ne vous quittent plus.
Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me prends dans tes bras, je ferai le tour du monde.
Et il y a le cirque, mais il y a la musique. Vos parents étaient déjà dans la musique et pour vous, cette musique est importante.
C'est-à-dire que, c'est déjà une question de goût personnel. Moi, j'ai toujours été fasciné par les instruments de musique. Quand j'étais tout petit, j'allais au collège, le tramway s'arrêtait juste devant une maison de musique. Et alors, il fallait me tirer vraiment par les basques pour me sortir de là. J'étais fasciné par tous les instruments. Je trouvais ça formidable. La forme d'un instrument, un violon, c'est fabuleux. Une guitare, c'est bon, je sais. Bon, mais je l'ai déjà dit 100 fois, ça, je veux dire. Mais j'ai toujours été fasciné par ça. De plus, quand j'ai commencé à m'intéresser à la chose comique, ça a été dès le début, tout de suite je me suis aperçu que le comique étant quand même une dégradation de valeur, il fallait se racheter par quelque chose. Et c'est ce que font les clowns, qui font ce qu'on appelle la comédie. « Ah, monsieur, ça, voilà, vous savez faire ça ?»« Non, je ne sais pas faire. » Et puis il y a des coups, tout ça. Et à la fin, ils disent « Ah bon, on va jouer un petit morceau. » Eh bien, cette phrase-là, c'est exactement, on dit, écoute, bon, on va quand même leur montrer qu'on n'est pas des niais, qu'on a une âme, qu'on vit, qu'à l'intérieur, c'est vivant. C'est ça, ça veut dire ça. Et moi, c'est pareil.
Les archives du rire.
Dans un sketch, quel qu'il soit, dans tous les sketchs que je fais, si on veut bien l'analyser, il y a un premier degré, qui est le quotidien. Je suis dans la vie, il m'arrive quelque chose, alors que si c'est mon chien, dans l'histoire de mon chien, c'est quelqu'un, c'est caractéristique. Je cite ça comme exemple parce que c'est un des miens, forcément, mais c'est quand même assez, c'est caractéristique. J'étais dans la rue en train de me promener avec mon chien que je tenais en laisse, comme ça, c'est quotidien, ça, on voit ça tous les jours. Et je rencontre une dame avec sa petite fille, c'est normal, ça, il n'y a rien d'étrange. Et j'entends la dame qui dit à sa petite fille, va caresser le chien. Jusque-là, tout est normal. Et la petite fille est venue me caresser la main. Ça y est, on bascule dans l'étrange. Et encore, la petite fille aurait pu se tromper. Alors moi, je lui ai fait signe qu'il y avait erreur sur la personne, que le chien, c'était l'autre. Mais la petite fille a continué à me caresser la main, et la dame a dit, tu vois qu'il n'est pas méchant. Donc la femme aussi rentrait dans le... Et voilà, et c'est tout. Et c'est à partir de ce moment-là, mon chien devient quelqu'un, et moi, je deviens le chien. Et mon chien, lui, qui n'aura jamais eu l'occasion de se taire, a cru bon d'ajouter, il ne lui manque que la parole. Hein ? Bon. Ça vous étonne tout de même, hein ? Bah moi, ce qui m'a le plus surpris, d'ailleurs, c'est pas tellement que ces dames m'aient pris pour un chien. Hein ? Tout le monde peut se tromper. Mais qu'elle n'ait pas été autrement surprise d'entendre mon chien parler. Alors ça ! Les gens ne s'étonnent plus de rien !
Il y a une chose qui nous a toujours marqué chez Raymond Devos, c'est sa manière de jouer avec le verbe et d'utiliser les mots.
Mais les mots vibrent comme un, ce sont des sons. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a les idées, mais les idées vibrent avec les sons, avec le son du mot. Alors, ça devient formidable d'avoir des idées qui ont plusieurs sens, ouais, forcément. Un mot, il se charge à force d'être pris en bouche, j'allais dire, il se charge d'un tas de choses. D'ailleurs, il y a des mots, on ne sait plus trop si à l'origine ça voulait dire ça, et puis ils se sont déformés, puis ça veut dire. Mais il reste quelque chose, des traces à l'intérieur du mot. Et quand on met un mot à la bonne place dans une phrase, tout ce qu'il a de son contenu éclate. Et les gens voient des images d'une richesse incroyable.
Vous savez que physiologiquement, le rire résulte d'une contraction des muscles du visage. Ce qui provoque une modification du faciès, accompagné de son trait caractéristique tel que... Oui. Madame le fait très bien. Vous avez remarqué que le rire est caractérisé en nous par une respiration saccadée. Cette respiration s'explique par des convulsions des muscles expirateurs. Une inspiration brutale vient de temps à autre interrompre ces convulsions. Si l'expiration nécessaire ne peut se faire à temps, le rire devient douloureux. Oh ! Le visage se congestionne. Le rieur est sur le point de s'asphyxier. Oh ! C'est irrésistible. D'où les expressions étouffées de rire ou crevées de rire. D'où aussi les plus courtes sont les meilleures. Évidemment, parce que si la plaisanterie dure un peu trop longtemps, que se passe-t-il ? Les muscles abdominaux se contractent de façon spasmodique. Arrêtez, vous ne faites pas loin. Nous, parfois, miction involontaire.
Et s'il est vrai que Raymond Devos a inspiré beaucoup d'humoristes, lui a été profondément marqué par un clown suisse, Grock.
Mais on ne peut même pas parler d'inspiration. Oui, c'est une inspiration, mais une inspiration que pourrait... provoquer un maître, hein, quand on a vu Grock, la première fois que j'ai vu Grock, c'est pas une inspiration, il vous inspire pas, il vous marque, parce que c'est ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça, un clown, c'est pas autre chose, il n'y a pas besoin d'aller chercher autre chose, il vous montre ce que c'est. Et évidemment qu'il ne faut pas le copier, hein, parce qu'il n'y en a qu'un. Oui. C'est une personnalité. Mais il vous montre comment, à partir de votre personnalité, il faut s'exprimer avec une force et une justesse. Et puis l'angle comique, alors ça, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Hein, ça. Bien alors, tu en as beaucoup d'autres, hein, Pierre Dac, avec qui j'ai travaillé. Là, faisais partie de sa troupe. Hein, alors je voyais travailler ce monsieur, j'ai même un peu joué avec lui quand Francis Blanche était absent. C'est tous les comédiens de la troupe qui... On prenait chacun un ou deux sketchs. Alors, c'est quand on a écouté ça, cette espèce de jeu de l'esprit, de tournure d'esprit, c'est dans la mesure où ça fout, encore une fois... Il y en a, ils écoutent ça, ça les amuse, parce que ça, c'est tellement irrésistible. Mais c'est tout, tandis que moi, ça fructifie. Je vois comment c'est fait, et je dis, c'est formidable. Alors, je n'ai pas cherché à imiter Pierre Dac, mais ça correspondait tellement à ma façon de penser que tout ça, ça met sur les rails. Et une fois qu'on est sur ces rails, bah, évidemment, Là, c'est à vous, à savoir où vous allez. Hein. Les rails, elles vont vers la bonne direction, mais après, il faut...
Je vais vous parler de l'invention, non pas du siècle, mais de tous les siècles. Vous parlez du biglotron, qui est la découverte sensationnelle, extraordinaire, du professeur Slalom Jérémy Ménerlaras. Vous pouvez rigoler si vous voulez, mais c'est extrêmement sérieux. Le professeur Slalom Jérémy Ménerlaras est un homme extrêmement discret qui ne tient pas à faire parler de lui, mais qui fatalement en fait parler. Et plus ça ira, plus il en fera parler, eu égard à l'extraordinaire retentissement de son invention qu'est le biglotron.
Monsieur Raymond Devos, il me semble à un moment donné, vous avez dit, il y a un moment où je me suis rendu compte que sur scène, je pouvais jouer que du Raymond Devos. Vous auriez peut-être voulu jouer d'autres choses, vous avez joué du Molière, mais vous êtes destiné à...
On va faire une mise au point tout de suite, parce que j'ai eu l'impression de me préférer à Molière. C'est absolument tout le contraire. C'est tout le contraire. Parce que quand on se met à jouer Molière, on ne peut plus jouer autre chose. Parce que Molière, c'est le maître. C'est l'unique, c'est l'homme qui c'est le comique par excellence, enfin la matière comique par excellence. Donc quand on a commencé à jouer du Molière, c'est très difficile d'en sortir et d'arrêter d'en jouer. Mais ça, c'est une question de nature. Pour jouer Molière, il faut être un très bon comédien, c'est-à-dire un bon serviteur du texte. Et moi, je me suis aperçu très vite, très tôt, que je n'étais pas ce qu'on appelle un serviteur. C'est-à-dire, moi, j'avais du mal un peu à rentrer dans des personnages. Alors que quand je me joue, moi, ça va tout seul. Et ça, c'est quand on est un personnage, on n'en joue pas d'autres. Un comédien n'est pas un personnage, il est 20, 30, 40, 50 personnages. Hein, c'est un caméléon, c'est ça un comédien. Et quand on s'aperçoit que à chaque fois on préfère se jouer, ben on a compris que c'est Fernand Reynaud. C'est Fernand Reynaud. Il a même joué la comédie, mais il était tellement plus fort en Fernand Reynaud.
Non, fais attention, Michel, tu ne devrais pas t'en boire du vin blanc comme ça quand tu conduis ta voiture. Tu vas avoir des ennuis.
Tais-toi, mémé, laisse-moi piloter, je fais du 45 km à l'heure, je risque rien, non?
Non, mais tu ne devrais pas boire, t'as déjà bu deux lignes de vin blanc, et maintenant tu attaques une bouteille de cognac, alors tu ne devrais pas boire. C'est tout ce que j'ai à dire, surtout que derrière, dans la voiture, malgré que tu conduises à 45 km à l'heure, ben derrière, il y a un moteur qui nous suit.
Fous-moi la paix, mémé, oh, y en a marre, quoi, des moteurs. Il y en a 500 000 derrière, 100 000 devant. On est dimanche après-midi, on roule en bagnole, alors des moteurs, il y en a, hein.
Je te dis pas qu'il y a un moteur, je te dis que c'est un moteur.
Les archives du rire.
Après Fernand Reynaud, on revient à Raymond Devos. Raymond Devos a écrit un nombre incalculable de textes, des textes drôles, magnifiques, poétiques. Et un jour, il écrit cet hommage extraordinaire au monde artistique, aux artistes, l'artiste tout simplement, Raymond Devos.
C'est le miroir aux alouettes, c'est l'artiste, l'artiste. Sur une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste, en quête d'absolu, joue les naufragés volontaires. Il est là, debout, sur une planche, qui oscille sur la mer. La mer est houleuse. Et la planche est pourrie. Il manque de chavirer à chaque instant, il est vert de peur. Et il crie, c'est merveilleux, c'est le plus beau métier du monde. Et pour se rassurer, il chante, maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Et plouf, il tombe à l'eau. Il est rappelé à la dure réalité de la fiction. Lui qui se voyait déjà en haut de l'affiche, il se voit déjà en bas de la liste de ses chers disparus. Il a envie de crier, un homme à la mer. Mais comme l'homme, c'est lui, et que lui, c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Et le spectacle continue !» Il remonte sur sa planche pourrie, il poursuit sa quête de l'absolu. Il a « Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ?» Et plouf, il retombe à l'eau. Il est ballotté comme une bouteille à la mer, à l'intérieur de laquelle il y a un message de détresse. Il a envie de crier « Une bouteille à la mer !»
Mais comme la bouteille, c'est lui, et que lui, c'est un artiste et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « L'eau est bonne !» Un peu fraîche, mais bonne. Il remonte sur sa planche pourrie, il a complètement perdu le nord. Il se croit sur la mer du même nom, il fait la manche. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ploufs, ils retombent à l'eau. Le public, lui, qui est resté sagement sur la rive, se demande si l'artiste n'est pas en train de l'emmener en bateau. Il dit, mais alors, quand est-ce qu'il se noie? L'artiste, il s'aperçoit soudain que la planche pourrie sur laquelle il est remonté pour la énième fois donne de la gîte sur tribord. C'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants d'abord !» Mais comme il est tout seul, il crie « Je suis le maître à bord !» Il ajouterait bien après Dieu, mais comme dans l'imaginaire, Dieu, on ne risque pas de le rencontrer. Hein ? Non, mais Dieu existe, certes, mais dans le réel. Pour Dieu, l'imaginaire, c'est une vue de l'esprit. La fiction, ça le dépasse. Mais l'artiste sait qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors, au lieu de crier après Dieu, il crie « Après moi le déluge !» Et tandis que sa planche, qui fait eau de toutes parts, s'enfonce dans les eaux, il n'a plus qu'une pensée, sauver la recette. Il fait une annonce publicitaire. « Mesdames, messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir était sponsorisé par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Il disparaît dans les flots et il réapparaît aussi sec. »
Ça nous ressemble tellement, j'allais dire, ça me ressemble. Forcément, ça me ressemble. Dans la mesure où je me sens tellement quelconque. C'est-à-dire tout le monde. J'avais écrit un spectacle qui s'appelait « Les autres que je suis ». Parce que j'ai toujours l'impression que je suis un peu les autres et que les autres sont un peu moi. Ça n'a plus rien à voir avec un personnage, c'est une question d'intérieur, c'est une question de vibration. Un homme, c'est un homme, quoi. Alors évidemment, on a des visages différents, des comportements différents, mais on a le même instinct. On est terriblement frères, finalement, si on va aller au bout. Alors, d'ailleurs, là, c'est pour ça que quand je raconte un truc, si c'est à peu près, si c'est vrai, c'est-à-dire si c'est humain, ben, les gens le comprennent, on le reçoit parfaitement bien.
Ça, mesdames et messieurs, c'est l'accordéon du vieux Léon. Le vieux Léon. Si, enfin, monsieur, vous l'avez connu, le vieux Léon. Monsieur, celui qu'on appelait le vieux Léon. Il écrivait des chansons superbes. Il pleuvait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute le matin même à un ami. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un homme qui passe.
Mais j'ai toujours, de tout temps, c'est-à-dire depuis que je connais Brassens, j'ai toujours mis un bout de chanson de Brassens dans mon tour. C'était une espèce de tradition, ce qui fait que d'ailleurs Georges retrouve quand il venait voir le spectacle, parce que Georges disait toujours, il disait une chose, il disait « J'assiste à deux générales, celle de Deveau, c'est la mienne. » Alors à un moment, quand il nous a quittés, j'ai voulu qu'il soit encore plus présent. Et alors j'ai fait cet hommage, qui est un hommage intemporel. C'est un hommage.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur le grand mar des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
C'est foutu à tes clergitures, c'était pas la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses...
Les archives du rire.
Tout à l'heure, vous avez parlé de Pierre Dac et vous parliez également du fait qu'on... qu'on prend le public par la main et qu'on va l'amener, vous l'amenez encore dans ce monde imaginaire, dans un monde à vous. Est-ce que vous êtes, vous imaginez ce monde? Est-ce que en dehors de votre spectacle, vous le voyez ce monde? Est-ce qu'il y aurait une planète de Vos?
C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est prétentieux aussi. Mais je pense pas du tout. Hein. Je pense que l'imaginaire, il est donné à tout le monde. C'est pour ça que moi, mon imaginaire, dans la mesure où j'ai un imaginaire, je ne montre pas les images que je vois. Je les suggère. Et c'est l'imaginaire des gens à qui je m'adresse qui font les images. C'est ça le grand truc. C'est ça le plaisir. Alors, si je dis qu'il y avait un type, il était plus ou moins comme... Je ne le montre pas, hein. Mais je dis, il était là, il est mal à s'exprimer. C'est tout. Alors, les gens voient, ils voient le type, ils le voient. Alors, je n'ai pas besoin de le montrer, quoi. Hein, c'est ça. Alors, mon imaginaire, c'est simplement... Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est des images du quotidien déformées. C'est-à-dire que dans l'imaginaire, il n'y a pas une image normale. Ou alors, ce n'est pas l'imaginaire. L'imaginaire, ce sont des images déformées, refaites, reconstruites, replacées. C'est ça, la déformation des images. Et dans la mesure où on déforme les images, on fait une création. On sort des images acceptées, décidées. Alors, c'est une distraction formidable.
Ah, l'imaginaire. C'est vrai, souvent on dit, on s'imagine que l'imaginaire c'est futile. C'est futile à l'imagination, alors que c'est capital. Quand on a la prétention, comme moi, hein, quand on a la prétention d'entraîner les gens comme ça dans l'imaginaire, il faut pouvoir les ramener dans le réel, et sans dommage. C'est que c'est une responsabilité. Par exemple, pendant un certain temps sur scène, je m'y mets un monsieur qui a soif et qui boit, et qui fume. Alors je commençais par mimer les objets. Pour bien mimer les objets, il faut les sentir de telle sorte qu'ils finissent par exister aux yeux des autres. Pas au mien, moi je suis pas dupe, je suis l'artiste. Alors je commence par mimer la cigarette. Le monsieur qui se roule une cigarette, il se les roule lui-même. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. Vous voyez, on voit bien que je roule une cigarette, on la voit bien la cigarette là. Là, on la voit la cigarette. Bon. La langue, on la voit. Oui, les allumettes. Ah ! Là, je suis allé trop loin. J'ai failli me brûler les doigts.
Est-ce que ce n'est pas le plus grand des divertissements que d'aller là où on ne peut pas aller réellement, et dans l'imaginaire le permet? C'est-à-dire qu'il y a un seuil. Il y a un seuil, c'est pour ça qu'il faut partir du quotidien, on y revient tout le temps. Hein. Mais l'imaginaire, dans mon histoire, par exemple, de la quatrième dimension, c'est qu'il y a un moment où je bascule de l'autre côté. Et ce moment, il est assez précis. C'est quand je tombe devant un mur, et tout d'un coup, je découvre qu'il y a un trou de serrure. Comment je trouve ça être? Alors, je glisse un œil, comme ça, dans le trou de la serrure, et qu'est-ce que je vois? Mon œil qui était passé de l'autre côté. Déjà, ça y est. Hein? Alors, je dis, c'est pas possible. J'enfonce mon doigt et je me le fous dans l'œil. Voilà, ça y est. Hein? Il y a quand même une façon de rentrer dans l'irréel. Dans l'irréel, il y a une façon. Il y a un piège, hein? Faut piéger les gens.
Alors, je retire ma main et je m'aperçois que mon doigt était resté dans la serrure. Je dis, c'est peut-être ça la clé, c'est peut-être mon doigt la clé. Alors avec les doigts qui me restaient, je tourne mon doigt comme ça dans la serrure, il n'allait pas. Enfin, c'était pas le bon doigt. Alors j'essaie l'autre, c'est trop gros, bon. L'autre n'allait pas non plus, enfin tout le trousseau de doigts y est passé. Ah. Pas de résultat. Alors, machinalement, comme ça, je m'appuie contre le mur, et je passe au travers. Vous pouvez pas savoir ce que c'est comme sensation de passer à travers un mur. C'est fantastique, ça existe, quoi, c'est possible. C'est ce qu'on appelle voyager dans l'espace. Et je me retrouve chez moi. Et j'entends... C'était une lettre que le postier venait de glisser sous la porte.
Je l'ouvre, c'était une invitation de Madame Claus à une réception qu'elle donnait le soir même en sa maison. Donc j'avais pas rêvé. Alors, là j'ai réalisé que non seulement je pouvais voyager dans l'espace, mais je pouvais aussi voyager dans le temps. Alors comme j'avais le temps, je vais y aller. Bon. Je vais pour sortir et je m'aperçois que ma porte était fermée de l'extérieur, à clé. Intrigué, je glisse un œil dans le trou de la serrure. Qu'est-ce que je vois ? Mon œil qui était passé de l'autre côté. Ça m'a pas tellement surpris parce que c'était pas la première fois. Alors j'enfonce mon doigt, je me le refous dans l'œil, comme quoi on fait toujours les mêmes bêtises. Et à ce moment-là, machinalement, je passe à travers ma porte, puisque j'étais dans la quatrième dimension, je pouvais passer à travers tout. Je me retrouve dehors. Et là, je m'aperçois que le ciel est dégagé. Je me dis, bon, tant mieux. Tant qu'à faire qu'à voyager dans le temps, il vaut mieux que le temps soit beau. J'arrive devant la fleuriste, je passe au travers, comme une fleur. J'arrive devant la crémière, comme dans du beurre, n'est-ce pas ? J'arrive devant la poste, je la franchis. Comme une lettre, c'est ça. Et j'arrive devant la maison close dont la porte était fermée, donc la maison était ouverte.
Ah, le monde imaginaire de Raymond Devos, c'était quelque chose. Comme tout artiste, comme tout humoriste, comme tout homme, tout simplement, Raymond Devos a écrit sur la mort. Alors comment est-il face à la mort, Raymond Devos, en 1993 ?
Mais qu'est-ce que vous voulez que je suis face à la mort, comme tout le monde ? C'est-à-dire qu'elle est au bout du chemin, mais tout le monde le sait. C'est d'ailleurs pas, c'est comme ça. Et c'est peut-être d'ailleurs pas trop mal. Bon, ben, Non, c'est vrai, elle est inéluctable. Mais c'est tout ce qui conditionne notre comportement. C'est donc une idée capitale, l'idée de la mort. Ça peut être une idée négative et nocive, comme une idée, je sais pas quoi, une espèce ça peut être aussi assez dynamique dans la mesure où on dit, puisqu'il faut que je vais mourir, avant de mourir, je vais quand même essayer de vivre. Hein. Et ça peut être aussi, qu'à quoi bon, à quoi ça sert, puisque finalement, on va mourir. Vous voyez, ça, on peut faire toutes les deux. Mais c'est quand même souvent pour se soulager de l'idée de la mort que l'on entreprend des choses, qu'on s'étourdit, tout ça. C'est pour oublier cette espèce d'obsession. Hein. Mais c'est comme ça. Nul n'y échappe. Alors évidemment, il y en a qui meurent de leur belle mort, comme on dit, puis d'autres accidentellement et d'autres en souffrant. C'est la pire des morts, hein. C'est de souffrir. C'est ce qui arrive avec les gens qui ont attrapé le sida. C'est quand même, ils savent qu'ils vont mourir.
Je vais vous chanter, parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Le plus beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Mesdames et messieurs, je n'ai jamais osé vous le dire par pudeur, mais c'est fou ce que je vous aime. Je n'ai vécu que pour vous, que pour vous. Et je suis prêt à mourir pour vous, là, tout de suite, sur scène, si vous le souhaitez. Je vous savais, gens intelligents. Je voudrais mourir sur scène comme Molière. Mais même pas dans un fauteuil, un strapontin suffirait à ma gloire. Savez-vous une chose ? Si je mourais là tout de suite devant ces messieurs-dames, je ne suis pas sûr que dans la salle, il n'y ait pas quelqu'un qui crierait « remboursé ». Alors là, mesdames et messieurs, mettons-nous bien d'accord. Qu'il n'y ait personne pour suivre mon enterrement comme pour Molière, je veux bien. Qu'il n'y ait pas d'oraison funèbre comme pour Molière, je veux bien, mais rembourser jamais. D'ailleurs, vous savez fort bien, mesdames et messieurs, qu'avec la conscience professionnelle qui me caractérise, s'il fallait que je meure devant vous, ce serait à la toute fin du spectacle, avant que le rideau ne tombe dans la tradition moliéresque. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Je vous aime.
Mais l'idée de la mort, moi je n'ai pas du tout. Comment vous, pourquoi voulez-vous avoir peur de quelque chose que, à laquelle vous ne pouvez pas échapper? On ne peut pas. Je ne sais pas. Depuis, on ne sait pas à quel moment on mourra. On ne peut pas la prévoir. Donc on peut toujours reculer l'échéance. Vous pensez même qu'elle ne viendra jamais, si on veut. Si ça aide à vivre.
Une rencontre inoubliable avec Raymond Devos à Genève en 1993. Sur ces quelques mots, on referme déjà cette émission Les Archives du Rire pour aujourd'hui, mais on reviendra très bientôt. Au revoir.